Chapitre 44. La nuit était bien avancée quand Richard quitta les quartiers de Dena. Dans les couloirs vides, la lumière des torches faisait danser sur les murs des silhouettes de cauchemars. Alors qu'il avançait, toujours dans le brouillard du chagrin, le bruit de ses pas se répercutait à l'infini sur des dalles en pierre polie. Le regard vide, chaque fois qu'il passait devant une torchère, il s'étonnait de voir son ombre tourner étrangement autour de lui. Son seul réconfort était de sentir peser un sac sur ses épaules, preuve incontestable qu'il allait bientôt quitter le palais du peuple. Sa destination? Il n'en avait aucune idée. L'essentiel était de s'éloigner de cet enfer. La douleur typique d'un agiel au creux de ses reins le força à s'arrêter, le souffle aussitôt coupé et le front déjà inondé de sueur. Les hanches et les jambes en feu, il entendit une voix rauque lancée.
« Où va-t-on comme ça ?»«
Constance !» Richard tenta de dégainer son épée. Dans son dos, la mort de Cite éclata de rire. En un éclair, il pensa à ce qui l'attendait s'il lui livrait le contrôle de sa magie. Tout recommencerait, cette éternité de servitude et de douleur. Il éloigna la main de la garde de l'épée et étouffa la colère de la magie. Constance vint se camper devant lui, un bras autour de sa taille pour garder la gielle en contact avec ses reins. Ainsi, ses jambes refuseraient toujours de bouger. Richard remarqua qu'elle portait une tenue rouge.
« Alors, tu ne vas pas utiliser ta magie contre moi ? Pas tout de suite, en tout cas. Mais tu y viendras, contraint et forcé, pour tenter de sauver ta sale petite peau. »
Elle eut un petit rictus.
« Épargne-toi des souffrances inutiles. Fais-le maintenant. J'aurai peut-être pitié de toi si tu essaies sur le champ. »
Richard pensa à toutes les façons dont Dena l'avait torturé. Pour lui faire de plus en plus mal, elle avait augmenté son seuil de tolérance, lui apprenant à bloquer la douleur. Il était temps de tirer profit de ses enseignements. En se concentrant, il réussit d'abord à prendre une grande inspiration. Puis, il enlaça Constance du bras gauche, la tira contre lui et de la main droite saisit la gielle de Dena pendue à son cou. Son bras sembla aussitôt se déchirer de l'intérieur. Refusant de céder à la souffrance, il souleva Constance du sol. Elle grogna de rage et tenta d'appuyer plus fort son propre agiel dans le dos de Richard. Le bras coincé, incapable de faire levier, elle obtint un résultat dérisoire. Quand il l'eut soulevé assez haut, le visage grimaçant de la femme face au sien, il lui plaqua l'agiel de Dena sur la poitrine. La mort de Cite, se souvint-il, avait procédé ainsi avec la reine Milena. Sur Constance, l'effet fut similaire. Elle trembla et relâcha sa pression sur le dos de Richard. Encore à la torture, car les deux agiels restaient en contact avec ses chairs, il se raidit pour bloquer la souffrance. « Je ne vais pas te tuer avec l'épée. Pour ça, il faudrait que je te pardonne tout. Je pourrais oublier ce que tu m'as fait, mais pas que tu as trahi Dena. Pour moi, c'est un crime inexpiable. »«
Pitié !»
gémit Constance.
« Chose promise !»
siffla Richard.
« Non, je t'en supplie, non !»
Richard fit osciller la gielle comme Dena quand elle avait tué Milena. Constance tressaillit et devint toute molle dans ses bras, du sang coulait de ses oreilles. Il laissa le cadavre glisser sur le sol.
« Chose due »
acheva-t-il. Il resta un long moment immobile, les yeux baissés sur la morte. Avant de s'apercevoir qu'il tenait toujours la gielle qui le faisait encore souffrir. Il le lâcha et le laissa pendre sur sa poitrine. « Merci, Dena, » pensa-t-il, « de m'avoir appris à supporter l'insupportable. Tu m'as sauvé la vie. » Il lui fallut une heure pour s'orienter dans le labyrinthe de couloirs et déboucher à l'air libre. La main sur la garde de son épée, il franchit le portail sous l'œil de deux gardes qui se contentèrent de le saluer poliment, comme s'il était un invité de marque quittant les lieux après un banquet. Il s'arrêta et sonda le paysage qui s'étendait sous la lumière des étoiles. Voir le ciel ne lui avait jamais fait aussi plaisir. Il regarda partout autour de lui. Défendu par d'imposantes murailles, Le palais du peuple se dressait sur un vaste plateau qui descendait abruptement vers une plaine. La pique était vertigineuse, des centaines de pieds, mais une route creusée à même la roche serpentait jusqu'en bas de la falaise.
Un cheval, messire.
Richard se tourna vers le garde qui venait de lui parler. Pardon?
J'ai demandé si vous vouliez un cheval. Vous semblez sur le départ et c'est un long chemin.
Un long chemin vers quoi? Le soldat désigna l'abîme.
Les plaines d'Azrit. Vous regardiez vers l'ouest en direction des plaines. Ce n'est pas à côté, alors désirez-vous un cheval?
Ainsi pensa Richard, exaspéré. Darkenral se souciait si peu de ce qu'il pouvait faire qu'il lui procurait même une monture.
Oui, j'en veux un.
L'homme se tourna vers un garde posté sur le chemin de ronde et émit une série de sifflements modulés. Richard entendit le code se répercuter de poste en poste.
« Ce ne sera pas long, messire, »
dit le garde en reprenant position près du portail.
« D'ici, combien de temps faut-il pour atteindre les monts Rangshada ? Où exactement dans les monts ? Ils sont très étendus. Au nord-ouest de Tamarang, là où ils touchent presque la cité. 4 ou 5 jours de cheval. »
répondit l'homme pensif. Il se tourna vers son collègue.
« Qu'en dis-tu ? » ?»« En galopant jour et nuit, en changeant souvent de monture, on doit pouvoir y arriver en 5, mais 4, ça m'étonnerait. »
Accablé, Richard ne s'étonna plus que Ral lui fournisse obligeamment un cheval. Il ne pouvait aller nulle part. Michael et ses soldats étaient à 5 jours de là, dans les Rangshada, impossible de les rejoindre et de revenir avant le début de l'hiver. Callan devait être plus près. Ral avait lancé à sa poursuite le colosse à la mèche noire et 2 quatuors. Si elle avait été si loin, il n'aurait pas pu revenir à temps. Mais pourquoi n'était-elle pas avec Michael? Il lui avait ordonné de ne pas partir à sa recherche. Ce fichu Chase avait dû passer outre ses instructions. En tout cas, il n'avait pas réussi à faire obéir l'inquisitrice. Après une explosion de rage, Richard se calma très vite. À la place de ses amis, il ne serait pas non plus resté les bras ballants sans savoir ce que devenait un frère d'armes. D'ailleurs, s'avisa-t-il, les soldats de Terre d'Ouest étaient peut-être avec eux et également à sa recherche. Hélas, une armée ne lui servirait à rien. 10 bons soldats du haut de ses murs pouvaient repousser 1000 hommes pendant un mois. 2 cavaliers en armure franchirent le portail, une 3e monture tenue par la bride.
« Vous faut-il une escorte, messire ?» demanda le garde. « Ce sont de solides guerriers. »«
Non, » répondit Richard avec un regard furibond.
« J'irai seul. »
Le soldat fit signe aux 2 cavaliers de repartir.
« Vous allez vers l'ouest-sud-ouest, donc ?»
Le jeune homme ne répondant pas, l'homme continua.
« Tamarang est dans cette direction. Puis-je vous donner un petit conseil ?»«
Essayez toujours, »
fit Richard méfiant.
Si vous chevauchez dans ce sens-là, à travers les plaines d'Azrit, vers le matin, vous arriverez devant un champ de rochers au milieu de hautes collines. Dans un canyon très profond, vous trouverez une intersection. Prenez à gauche, surtout.
Pourquoi?
Parce que la route de droite conduit au territoire d'un dragon. Un dragon rouge. Il sert Maître Ral et il a un fichu caractère.
Richard monta en selle et regarda le soldat.
Merci du conseil. « Je m'en souviendrai. »
Il talonna le cheval et s'engagea sur la route tortueuse. Au sortir d'un lacet, il vit qu'on était en train de baisser un pont-levis. Le temps qu'il l'atteigne s'était fait et il put traverser au galop. Ce chemin était le seul accès au plateau. Le pont levé, l'abîme devenait un obstacle infranchissable pour toute armée d'invasion. Même sans les troupes cantonnées au palais et sans la magie de Darkenral, le domaine du maître était inaccessible. En chevauchant, Richard défit le collier de cuir tant détesté et le jeta dans le ravin. Il n'en porterait plus jamais, pour personne et pour aucune raison. Il regarda derrière lui et aperçut la forme noire du palais du peuple au sommet du plateau. L'énorme structure voilait tout un pan de ciel. L'air glacial lui faisait pleurer les yeux. Où était-ce le souvenir de Dena? Il ne parvenait pas à la chasser de ses pensées. S'il n'y avait pas eu Callan et Zed, il se serait suicidé près de son cadavre tant il avait de chagrin. Tuer avec l'épée sous le coup de la colère et de la haine était affreux. La magie blanche, celle de l'amour, se révélait encore pire, au-delà de l'horreur. La lame avait repris sa couleur habituelle, mais il savait comment la faire redevenir blanche, et il espérait mourir avant de devoir recommencer, car même si ça s'imposait, il n'était pas sûr de s'y résoudre. À présent, il galopait dans la nuit, en route vers ses deux amis, pour savoir lequel avait livré la boîte à Darkenral, lequel avait trahi le monde au bénéfice du maître. Ça ne tenait pas debout. Si Zed était le félon, pourquoi Ral aurait-il voulu le piéger avec la pierre de nuit? Et si c'était Kalan, il ne lui aurait pas envoyé ses sbires aux trousses? Pourtant, Shota avait assuré que le sorcier et l'inquisitrice tenteraient de le tuer. Donc le coupable était bien un des deux. Que devait-il faire? Rendre la lame blanche et les abattre l'un et l'autre? Absurde. Plutôt mourir lui-même que de toucher un de leurs cheveux. Mais si Zed était le traître, le tuer devenant le seul moyen de sauver Kalan, ou l'inverse? Préférerait-il encore mettre fin à ses jours? L'essentiel restait d'arrêter Ral. Pour ça, il fallait récupérer la troisième boîte. Penser à des problèmes hypothétiques était un gaspillage d'énergie. Une fois Ral vaincu, tout se remettrait en place. Ayant découvert l'artefact une fois, il pouvait recommencer. Et que faire? Le temps pressait. Comment trouver Kalan et Zed alors qu'ils devraient fouiller tout un pays à cheval? Si Chaz les accompagnait, inutile de s'attendre à les repérer sur les routes principales. Le garde-frontière choisirait les pistes les moins exposées. Et lui, il ne connaissait rien à ce territoire. Une mission impossible. Trop de terrain à explorer. Darkenral avait semé le doute en lui. Ses pensées tourbillonnaient, devenant de plus en plus confuses et négatives. Son esprit, comprit-il, était à présent son pire ennemi. Pour s'empêcher de penser en rond, il se vida la tête et entonna le texte débilitant des dévotions. Déclamer sa foi à l'homme qui voulait le tuer avait un côté franchement stupide, mais il passa outre. Maître Ral nous guide, Maître Ral nous dispense son enseignement, Maître Ral nous protège. À sa lumière, nous nous épanouissons. Dans sa bienveillance, nous nous réfugions. Devant sa sagesse, nous nous inclinons. Nous existons pour le servir et nos vies lui appartiennent. Il accorda deux pauses au cheval, mais le poussa à ses limites le reste du temps. Les plaines d'Azrit, nues et désolées, semblaient s'étendre à l'infini. L'incantation lui permit de ne plus penser à rien, sauf à l'horreur d'avoir tué Dena. Ce souvenir-là ne le lâcherait pas. Et à ce sujet, il ne ravalerait pas ses sanglots. À l'aube, il eut enfin un peu de compagnie. Son ombre. Comme l'avait annoncé le soldat, il aborda une zone semée de rochers qui projetaient leurs silhouettes noires en travers de la sienne. Dans ce paysage déchiqueté, le terrain devint vite très accidenté. Des crevasses en passages étroits, il atteignit un canyon exigu et fut bientôt en vue de l'intersection. Suivant le conseil du garde, il prit le chemin de gauche. Mais une idée explosa dans son esprit. Tirant sur les rênes de son cheval, il le força à s'arrêter et à reculer de quelques pas. Devant le chemin de droite plus étroit, il réfléchit quelques instants puis s'y engagea résolument. Darkenral l'avait laissé libre d'aller où il voulait, y compris à cheval. Verrait-il un inconvénient à ce qu'il lui emprunte son dragon? Lâchant la bride à sa monture, il regarda autour de lui, la main sur son épée. Repérer un dragon rouge ne devait pas être difficile. À part celui des sabots du cheval, il n'entendait aucun bruit. Aux aguets, il avança longtemps entre les rochers. Puis, il commença à s'inquiéter. Et si le dragon était parti? Ral le chevauchait peut-être à cet instant précis en quête de la boîte manquante. Son idée n'était sans doute pas géniale. Conclut-il. Hélas, il n'en avait pas d'autre. Une langue de flamme aveuglante jaillit soudain devant lui avec un fracas étourdissant. Alors que sa monture reculait, Richard sauta de selle, se rétablit souplement et se cacha derrière un rocher pour éviter les éclats de pierre et les flammèches qui volaient partout. Certains projectiles ricochèrent juste au-dessus de sa tête. Il entendit un choc sourd et comprit que son cheval venait de s'écrouler. Une odeur de poils brûlés monta à ses narines, immédiatement suivie par un cri atroce qui s'acheva sur de sinistres craquements d'eau. Pressé contre son rocher, Richard n'osa pas regarder. alors que retentissaient d'autres bruits d'eau brisée et le son caractéristique de la chair qu'on déchire, il se dit que son idée était d'une stupidité crasse. Mais comment le dragon avait-il pu se cacher aussi bien? Et l'avait-il vu plonger derrière son rocher? Pour l'heure, il semblait que non. Pressé de trouver un moyen de filer, Richard dut vite se résoudre à l'évidence. Sur ce terrain découvert, il serait visible comme le nez au milieu de la figure. Les bruits de mastication lui retournaient l'estomac. Par bonheur, ils cessèrent assez rapidement. Les dragons piquaient-ils un petit somme après un bon repas? Il entendit quelques grognements. De plus en plus près de lui. Le moment ou jamais de se faire tout petit. Des cerfs saisirent son rocher, le soulevèrent et l'envoyèrent bouler au loin. Deux immenses yeux jaunes se posèrent sur le jeune homme. Tout le reste de la bête était rouge. Hérissé de pics souples aux pointes noires à la base de la mâchoire et derrière les oreilles, la tête du dragon se balançait au bout d'un long cou attaché à un corps gigantesque. La queue se terminait par des pics, mais durs comme de l'acier, celle-là. Elle battait de droite à gauche, renversant des rochers au passage. Quand le monstre tendit ses ailes, des muscles puissants saillirent entre les écailles de ses épaules. Des crocs acérés, rouges de sang frais, garnissaient le long museau aux immenses narines d'où s'échappaient encore des volutes de fumée.
« Eh bien, qu'avons-nous donc là ?»
lança une voix incontestablement féminine.
« Une gâterie !»
Richard se dressa de toute sa hauteur et dégaina son épée.
« J'ai besoin de ton aide. Je me ferai un plaisir de te donner un coup de main, petit homme, quand tu seras dans mon estomac.
Je te préviens, garde tes distances, mon épée est magique. »«
Magique !»
railla la femme dragon, une serre posée sur la poitrine.
« Pitié, grand héros, ne me tue pas avec ton arme enchantée !»
Le monstre émit un gargouillis mêlé de fumée qui devait être un éclat de rire. Richard ne rengaina pas son épée, mais il se sentit complètement ridicule.
« Tu veux vraiment me manger ?»«
Eh bien, à vrai dire, c'est plus pour le plaisir que pour le goût. »«
J'ai entendu dire que les dragons rouges sont indépendants et malins. Toi, tu n'es guère mieux qu'un toutou pour Darkenral. »
Une boule de feu jaillit de la gueule du monstre et s'éleva dans les airs.
« Je pensais que tu aimerais être libéré de ton esclavage. »
La tête rouge, plus grande que lui, constata Richard, non sans frayeur, s'approcha de la sienne. Les oreilles pointées, la bête sortit sa langue rouge bifide comme celle d'un serpent et la darda vers lui pour une inspection méticuleuse. Il écarta l'épée du chemin quand cet appendice râpeux remonta de son entrejambe à sa gorge. Ce contact délicat pour un dragon força Richard à reculer de quelques pas.
« Et comment accomplirais-tu ce prodige, petit homme ?»«
Je combats Darkenral et je veux le tuer. Si tu m'aides, tu n'auras plus de chaîne. »
La femelle dragon releva la tête, cracha un peu de fumée par les naseaux et éclata de rire. Le sol tremblant sous les pieds de Richard, la bête le regarda de nouveau et s'esclaffa de plus belle. Elle s'arrêta net et le foudroya du regard.
« Tu crois que je mettrai mon destin entre les mains d'un nain comme toi? Je préfère assurer mon avenir en servant Maître Oral. Assez plaisanté, il est temps de déguster ma gâterie. »«
Comme tu voudras, je suis prêt à mourir. »
Richard devait gagner du temps pour réfléchir à la question cruciale. Pourquoi une femelle dragon, rouge qui plus est, servait-elle un humain?
« Avant que tu te régales, puis-je dire quelque chose ?»«
Vas-y, mais fais court !»
Originaire de Terre d'Ouest, je n'avais jamais vu de dragon. Depuis toujours, je pense que ce sont des créatures effrayantes, et pour ça, on peut dire que tu l'es. Mais je suis quand même surpris.
« Par quoi ?»«
Tu es sans nul doute la plus belle créature que j'ai jamais contemplée. »
C'était la stricte vérité. Malgré sa cruauté et sa férocité, la bête était splendide. Stupéfaite, la femelle dragon recula la tête, son cou dessinant un S fort gracieux. Elle plissa un peu les yeux, méfiante.
« Je suis sincère, » dit Richard.
« Pourquoi mentir avant d'être dévoré ?
Tu es très belle. Je n'aurais pas cru poser les yeux un jour sur une créature aussi superbe. As-tu un nom ?»«
Écarlate. »«
Écarlate ? Ça te va à ravir. »
Tous les dragons rouges sont aussi beaux ou tu es une exception ?
Ce n'est pas à moi de le dire.
Minoda écarlate en se posant de nouveau une serre sur la poitrine. La tête se tendit davantage vers Richard.
Tu es le premier homme qui me le dit avant que je le mange.
Une idée germa dans l'esprit de Richard qui rengaina son épée.
Écarlate, je sais qu'une créature aussi fière que toi déteste être à la botte de quelqu'un, surtout d'un homme comme Darkenral. Il doit y avoir une raison impérieuse. Tu es trop belle et trop noble pour accepter qu'on te domine.
Pourquoi me dis-tu tout ça ?
Demanda la femelle dragon en approchant davantage la tête.
Parce que je crois à la vérité, comme toi.
Comment t'appelles-tu ?
Richard Cypher. Je suis le sourcier.
Le sourcier ?
Répéta Écarlate en se tapotant l'écrou du bout d'une serre à la pointe noire.
Je n'en ai jamais mangé, à ma connaissance.
Un étrange sourire s'afficha sur sa gueule.
Quand je parlais de gâterie, notre conversation est terminée, Richard Cypher. Merci du compliment.
La gueule monstrueuse s'ouvrit en grand.
Darkenral t'a volé ton œuf, pas vrai ?
Écarlate replia le cou.
Elle foudroya Richard du regard, rejeta la tête en arrière et poussa un cri qui fit vibrer les écailles de sa gorge.
Une langue de feu jaillit vers le ciel, le souffle provoquant un petit éboulis sur les parois du canyon. Les naseaux fumants, Écarlate darda de nouveau la tête vers Richard.
« Que sais-tu à ce sujet ?»«
Qu'une créature fière comme toi ne sert personne, sauf si on la fait chanter. » En menaçant ce qu'elle chérit le plus au monde, sa descendance, par exemple.
« Tu as tout compris, mais ça ne te sauvera pas. »«
Même si je peux te révéler où Ral a caché ton œuf ?»«
Où ?»
Richard dut s'écarter pour éviter un jet de flamme.
« Dis-moi où ?»«
Tu ne préfères pas me manger ?»«
Quelqu'un devrait te faire avaler ton insolence !»
grogna Écarlate.
« Désolé. » C'est une mauvaise habitude qui m'a déjà valu bien des tourments. Cela dit, si je te permets de récupérer l'œuf, Darkenral n'aura plus de prise sur toi. En échange, m'aideras-tu ?
T'aider comment ?
Tu transporteras là où il veut. C'est ce que je te demande. Sois ma monture pendant quelques jours pour que je retrouve des amis à moi et que je les défende contre Ral. Il me faut couvrir de grandes distances, fouiller une vaste zone. Si je peux regarder le monde d'en haut comme un oiseau, j'ai une chance de réussir, et il me restera assez de temps pour arrêter Ral.
Je déteste transporter des humains. C'est humiliant.
Dans 6 jours, tout sera fini, d'une manière ou d'une autre. Après, quoi qu'il arrive, je ne te demanderai plus rien. Si tu me tournes le dos, combien de temps devras-tu servir Ral ?
Dis-moi où est mon œuf et je te laisserai partir.
Et si j'ai menti ? Si je dis n'importe quoi pour sauver ma peau ?
Comme les dragons, les véritables sourciers ont le sens de l'honneur. Si tu sais quelque chose, dis-le et je t'épargnerai.
Non.
Non ?
Rugit Écarlate.
Comment oses-tu ?
Je me fiche de vivre ou de mourir. Comme toi, je me soucie de choses plus importantes. Si tu veux ton œuf, accepte de m'aider à sauver ceux qui me sont chers. « Nous irons d'abord chercher ton petit, puis nous nous occuperons de mon problème. Une proposition très honnête, la vie de ton enfant contre quelques jours d'assistance. »
Écarlate lui colla son museau sous le nez.
« Et comment es-tu sûr, petit homme, que je remplirai ma part du marché une fois que j'aurai ce que je veux ?»«
Parce que tu comprends ce que c'est d'avoir peur pour quelqu'un qu'on aime, et parce que tu as le sens de l'honneur. Moi, je n'ai pas le choix. » C'est le seul moyen d'éviter que mes amis souffrent jusqu'à la fin de leur jour sous le joug de Ral. Et tu sais ce que ça signifie. Pour retrouver l'œuf, je risquerai ma vie. Je crois que tu respectes la parole donnée, alors je mise mon existence sur ce pari. »
Écarlate grogna, recula un peu et le dévisagea. Puis elle replia ses ailes, sa queue battant furieusement, tempête miniature pour les pierres et les petits rochers. Richard ne broncha pas. La femelle dragon tendit une patte. Une serre à pointe noire, grosse comme la jambe du sourcier et plus affûtée que son épée, se glissa sous le baudrier de Richard et le tira doucement vers la gueule du monstre.
Marché conclu. Sur ton honneur et sur le mien, mais je n'ai pas promis de renoncer à te croquer à la fin des 6 jours.
Si mes amis sont sauvés et Ral vaincu, je me fiche de ce que tu me feras.
Écarlate grogna son approbation.
Les garnes à queue courte sont-ils un danger pour les dragons?
Les garnes?
Cracha Écarlate en lâchant le baudrier de Richard.
J'en ai mangé 13 à la douzaine. Ils ne peuvent rien contre moi, à moins d'être à 9 ou 10 contre 1. Mais ils ne sont pas grégaires, donc aucun problème.
Détrompe-toi. Là où est ton œuf, il y en a des dizaines et des dizaines.
Écarlate rugit et cracha quelques flamèches.
Des dizaines? Dans ce cas, ils peuvent me faucher en plein vol, surtout si je porte mon œuf.
Voilà pourquoi tu as besoin de moi, triompha Richard. Je vais réfléchir à un plan.
Zed hurla à la mort. Calan et Chaise reculèrent vivement. L'inquisitrice s'inquiéta car il n'avait jamais réagi comme ça quand il cherchait Richard par l'intermédiaire de la pierre de nuit. Le soleil était presque couché. Malgré la pénombre, la jeune femme vit que la peau du sorcier était presque aussi blanche que ses cheveux. Elle le prit par l'épaule.
« Zed, que se passe-t-il ? »
Le vieil homme ne répondit pas. Les yeux révulsés, il inclina la tête comme si son cou ne pouvait plus la soutenir. Il ne respirait toujours pas, mais ça n'avait rien d'alarmant, car il en était toujours ainsi quand il se concentrait sur la pierre de nuit. Le sentant trembler sous sa main, l'inquisitrice échangea un regard angoissé avec Chase.
« Zed ! »
cria-t-elle en le secouant.
« Arrêtez, revenez avec nous !»
Le sorcier haleta puis marmonna quelque chose, qu'Alan approcha une oreille de sa bouche.
« Zed ! »
s'exclama-t-elle horrifiée.
« Je ne peux pas vous faire ça »
« Qu'a-t-il dit ? »
demanda Chase.
« Il veut que je le touche avec mon pouvoir. »«
Au royaume des morts !»
croassa le sorcier.
« Seul moyen !»«
Zed, que vous arrive-t-il ? » ?»«
Je suis piégé. Obéis-moi ou je suis fichu. Vite !»« Il faut l'écouter !»
souffla Chase.
« Zed, je ne peux pas vous faire ça !»
répéta Calan.
« Allez !»
cria Chase.
« Ce n'est pas le moment de polémiquer !»«
Que les esprits du bien me pardonnent !»
murmura l'inquisitrice en fermant les yeux. Elle détestait ne pas avoir le choix. Redoutant ce qu'elle allait faire, elle vida son esprit. Dans un calme absolu, son contrôle se relâcha et le pouvoir se déversa dans le corps du vieil homme. L'air trembla comme sous l'effet d'un coup de tonnerre silencieux. Des aiguilles de pin tombèrent tout autour d'eux. Trop près de ses amis penchés sur eux, Chase gémit de douleur, puis le silence revint. Mais Zed ne respirait toujours pas. Soudain, il cessa de trembler, ouvrit les yeux, battit plusieurs fois des paupières, leva les mains et les referma sur les bras de Calan.
« Merci, mon enfant »
souffla-t-il. La magie de l'inquisitrice apparemment ne l'avait pas affecté. Il était toujours lui-même. La jeune femme en fut soulagée, mais immensément surprise.
« Zed, vous allez bien ?»«
Oui, grâce à toi. Si tu n'avais pas été là, ou si tu avais hésité un peu plus, je serais prisonnier du royaume des morts. Ton pouvoir m'en a ramené. »«
Mais pourquoi ne vous a-t-il pas transformé ?»
Zed lissa sa tunique, visiblement embarrassé de s'être trouvé dans une situation si fâcheuse.
« À cause de l'endroit où j'étais. »
Il releva le menton.
« Et parce que je suis un sorcier du premier ordre. Ton pouvoir m'a servi de fil rouge pour retrouver mon chemin. Comme une balise lumineuse dans l'obscurité, je l'ai suivi sans le laisser agir sur moi. »
« Que faisais-tu dans le royaume des morts ?»
demanda Chase avant que Calan ait pu poser la question. Le sorcier le foudroya du regard et ne répondit pas.
« Zed, dit Calan, expliquez-nous. Ça ne s'était jamais produit. Pourquoi avez-vous été attiré dans le royaume des morts ?»«
Quand je cherche la pierre de nuit, une partie de moi la rejoint là où elle est. C'est ainsi que je la localise. »
Callan fut terrifié par les implications de ces deux phrases.
« Mais la pierre de nuit est toujours en Dara, comme Richard. »
Elle saisit le sorcier par sa tunique.
« Zed !»
Le vieil homme baissa les yeux.
« La pierre de nuit n'est plus en Dara, mais dans le royaume des morts. »
Il releva la tête, le regard brûlant de colère.
« Ça ne signifie pas que Richard l'ait suivi, ni qu'il lui soit arrivé malheur. Seule la pierre est concernée. »
Tendu à craquer, Chase commença à installer le camp avant qu'il fasse trop noir. Glacé de terreur, Callan n'avait pas lâché le sorcier.
« Zed, s'il vous plaît, vous vous trompez peut-être. »« Non, la pierre est là où je le dis. Mon enfant, ça n'implique pas que Richard y soit aussi. Ne te laisse pas emporter par la peur. »« Ça doit être ça, »
dit la jeune femme, des larmes sur les joues.
« Il faut que ce soit ça. Si Ral l'a épargné si longtemps, ce n'est pas pour le tuer maintenant. » Nous ne savons même pas s'il est entre les mains de Ral. »
Callan comprit que le vieil homme refusait simplement d'admettre la vérité. Au palais du peuple, qui d'autre que Ral pouvait détenir Richard?
Zed, lors de votre dernière recherche, vous l'avez senti, et il était vivant.
Elle lutta pour poser la question qui lui déchirait les entrailles.
Avez-vous capté sa présence dans le royaume des morts? Non,
répondit le sorcier après un long silence.
« Mais je ne sais pas si je l'aurais senti. S'il était mort, je veux dire. »
Callan éclata en sanglots. Il la tira contre lui et la laissa pleurer sur son épaule.
« Pourtant, je crois que seule la pierre était là. Ral a tenté de me piéger. Il a dû prendre l'artefact à Richard et l'envoyer dans le royaume des morts pour me tendre un traquenard. »
« Nous continuons à le chercher, »
dit Callan.
« Je ne rebrousserai pas chemin. »« Nous non plus, rassure-toi. »
La jeune femme sentit une langue chaude et douce lui lécher la main. Elle caressa la tête du loup et lui sourit.
« Nous le trouverons, maîtresse Callan. Ne désespérez pas. »« Brophy a raison, » dit Chase. J'attends avec impatience le sermon qu'il nous infligera pour être allé à sa recherche.
La boîte est en sécurité, rappela Zed. C'est l'essentiel. Demain, nous serons à 5 jours du début de l'hiver. Alors, Darkenral mourra. Nous rejoindrons Richard après, ou peut-être même plus tôt que ça, bien que j'en doute.
Si c'est ça que vous insinuez,
grommela Chase.
Je vous aurais conduit à lui longtemps avant la fin de ce délai.